Paris, 3 mois complets, pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop beau, pour les vacances nous avions un bateau.
You!
Eh ben you, hein, c'est tu.
Voilà. Bonjour
voyou,
tout le monde.
Voyou.
Bonjour Jean-Marie, bonjour Melvin à la technique.
Bonjour tout le monde, bonjour Melvin à la technique, qui hoche la tête d'un air concentré, on va dire.
Pour dire bonjour, il hoche la tête.
Voilà, c'est ça, oui.
Voilà. Alors, nous allons parler aujourd'hui de Vancouver.
Vancouver, tout
voilà,
à fait.
Voilà, Vancouver.
On ne s'est pas trompé de sujet, c'est bien ça.
Non, c'est ça. Mais Jean-Marie, tu vas nous en dire davantage.
Davantage.
Eh si.
Les avantages, tu sais, en ce moment, on n'en a pas trop. Hein.
Bon, allez, on t'écoute.
On va parler aujourd'hui d'un navigateur anglais.
Ah.
Encore en anglais. Hein. Vous avez tous entendu au moins le nom de Vancouver. Melvin, t'as entendu le nom de Vancouver, toi ?
Oui, ça me dit quelque chose. C'est une ville en Angleterre ?
C'est ça.
C'est juste à côté, c'est au Canada, mais du côté du Pacifique. Ouais, non, mais c'est pas grave.
On y était presque.
Oui.
T'es jeune. J'ai pas encore été à Vancouver. Au fait, je connais un gars avec qui joue de la guitare, son fils est là-bas et... Il fait de l'enseignement des langues là-bas, à Vancouver.
Ah, voilà.
Tu vois. Il s'appelle Jean-Marie, mon copain. Hein.
Comme toi.
Donc c'est un bon, quoi. Vous avez tout entendu de Vancouver. La ville canadienne de ce nom et aussi l'île qui lui fait face. Car en face de cette ville, Melvin, il y a une grande île. Hein, une grande île, voilà. Qui masque un peu le rivage. Voilà. Sur la côte ouest du Canada, c'est-à-dire sur la côte pacifique. Quand je dis qu'il lui fait face, c'est plutôt qu'il abrite de la pleine mer. Parce qu'entre la pleine mer et ça, et la ville de Vancouver, les littorales, il y a un bras de mer quand même très large, hein, qui doit faire, plus de 100 kilomètres.
Hein. Ah bon ?
Oui, c'est un grand truc. Ah. Peut-être 80, je n'ai pas été le mesurer encore.
Bon.
Ces noms ont été donnés à ces lieux, donc, en l'honneur de ce navigateur, évidemment. La ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, Melvin. Hein. Et note bien, c'est en Colombie-Britannique, hein, la province du Canada. Voilà. À la frontière entre ce qu'on appelle le Yukon et l'Alaska. Alors le Yukon, tout le monde le sait, c'est l'endroit où on est allé chercher l'or, à l'époque des chercheurs d'or, hein,
ouais.
Vers 1660, par là, hein, à peu près. Hein. Voilà. Et dans l'état de Washington, le mont Vancouver... et l'île du même nom. Alors, il s'agit de George Vancouver, qui est né, cet homme-là, le 22 juin 1757, à King's Lynn, une cité du comté de Norfolk. Alors, je vous rassure, il n'est pas né au Canada, il est né en Angleterre. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il était anglais. Hein ? Voilà. Et ce sont ces croisières de découverte et de reconnaissance en différents sites du Pacifique qui ont établi sa notoriété. C'est pour ça qu'on a donné ses noms, comme on faisait avant, le découvreur donnait le nom. Voilà.
Ouais, nous parce étions... que c'était un officier de...
C'était un officier de la marine...
De la marine anglaise.
Royale,
s'il vous plaît.
Faut pas l'oublier, ça. Hein, non. Alors nous étions à l'époque où bien des côtes n'avaient pas encore été reconnues sur le pourtour du Pacifique. Hein, mm-hmm. Il y a plein d'endroits, sur des kilomètres et des kilomètres, on n'avait pas de carte. On savait à peu près que c'était... Là, il y avait un cap, là, il y avait une baie, mais ça n'avait pas été découvert parce que c'est très grand et les navigateurs, eh bien, il n'y en avait pas... voilà. Et pas plus concernant toutes les îles qu'il habite, puisque sur ces côtes-là, il y a énormément d'îles. C'est une côte qui est très, très, très découpée. Voilà. Et c'est d'ailleurs aussi à l'époque où notre Lapérouse...
Eh oui.
T'as entendu parler de Lapérouse, toi ?
Quand même.
Malvin, t'as entendu parler de Lapérouse, toi ?
Bien sûr.
Quand même, oui, il y a sa statue.
Ah, il y a sa statue. Voilà. Tu connais surtout sa statue, quoi.
Oui.
Les canons et les ancres qu'il y a autour.
Galop de Lapérouse.
D'accord. Galop.
Ouais, galop.
Ouais, parce qu'il galopait beaucoup. Et tu sais où il est mort ? Non, pas chez lui, non. Pas chez lui, non.
Il est mort en mer, mais je ne sais plus.
À Vanikoro. Dans l'île de Vanikoro. Hein, l'île de Vanikoro, c'est un peu C'est un peu au nord, je crois, de Nouvelle-Calédonie, hein, par là. Hein,
par là-bas.
C'est à côté de la Nouvelle-Calédonie.
Oui, 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 dans le secteur.
Tu sais que la Nouvelle-Calédonie, c'est là où on fait les pâtes alimentaires. Tu le sais, ça hein
non,
la Nouvelle-Calédonie.
Non, n'écoute pas, là, il dit.
Non, mais je rigole.
Il blague.
Et c'est lui aussi dans ses parages. Alors, la Pérouse, à cette époque-là, était dans ses parages. Hein. C'est-à-dire que la Pérouse, il n'a pas fréquenté que l'Océanie. Il a aussi fréquenté. Il est monté jusque dans le nord, du détroit de Bering, mmh. Il est redescendu par le Kamtchatka. Kamtchatka, tu connais le Kamtchatka quand même?
Non.
Ah bon, ça il connaît, il m'a dit qu'il connaissait. C'est une grande, grande, immense presqu'île qui est au bout de la Sibérie. Hein. Il fait un froid de Sibérie, même des fois de Sept-Béry là-bas. Mais par contre, lui n'en reviendra pas. Et lui, Vancouver, il est revenu, mais...
Pas la Pérouse.
Pas la Pérouse. Qui est... Ses bateaux se sont échoués à Vanikoro. Voilà. Ça me fait penser qu'on n'a jamais fait d'émission sur, sur la Pérouse ici. Hein. Honte sur nous. Honte sur nous.
Ah, ben, alors, la prochaine, on va réfléchir à ça.
On est Vancouver va reconnaître la côte ouest du Canada, c'est-à-dire la côte du côté du Pacifique. Pacifique que ça, quand même. Et il va aller reconnaître aussi l'archipel des îles Hawaï. Hawaï, on connaît ça, hein, à cause du surf, surtout. Hein, voilà. Et les îles Hawaï étaient nommées alors les îles...
Aucune idée.
Un morceau de pain avec de la charcuterie dedans. Sandwich. Les îles Sandwich. Eh oui. Ah, du nom d'un noble anglais qui s'appelait Sandwich. Et pourquoi il s'appelait Sandwich, ce noble anglais? Parce qu'il était tellement joueur, tu sais, qu'il ne s'arrêtait pas pour manger. C'est son domestique qui lui amenait des sandwichs. C'est pour ça que ça s'appelait des sandwichs.
Bon, revenons à Vancouver.
Alors, revenons à Vancouver, qui lui ne mangeait pas de sandwichs d'ailleurs. Voilà. Vancouver va reconnaître la côte ouest du Canada. Il va aller reconnaître aussi l'archipel des Hawaï, donc, on l'a dit. Alors, nommé les sandwichs. Et il poursuivra ses croisières en visitant une bonne partie de la côte sud de l'Australie. Je dis bien de la côte sud de l'Australie, parce qu'au début, on ne connaissait que la côte nord de l'Australie. La côte sud de l'Australie était parfaitement inconnue. Hein.
Alors, ce brave George, eh bien, il est né en numéro 6 du couple John Gasper Van Couverdon et de son épouse Bridget Bernes.
Mm-hmm.
On aura compris qu'avec la particule van, qui signifie « deux » dans les langues saxonnes, il n'est pas de pur jus anglais, mais plutôt hollandais.
C'est ça.
En fait, son nom d'usage, Vancouver, va être un raccourci de son nom réel, Van Couverdon, ce qu'on appelle aussi un apocope.
C'est ça.
Ouais, un apocope, c'est la chute d'un ou de plusieurs phonèmes à la fin du mot, par suite d'une évolution phonétique. Voilà.
C'est ça.
Alors, en réalité, son nom d'origine signifie « qui est originaire de la ville de Coverdon ».
Oui, de Coverdon.
Voilà, qui est une ville des Pays-Bas.
Ouais.
La ville de Vancouver et l'île de Vancouver, donc en Colombie-Britannique, comme tu l'as dit, qui est une province du Canada, ainsi que la ville de Vancouver dans l'état de Washington et le Mount Vancouver, à la frontière entre le Yukon et l'Alaska, ont été nommés ainsi... en son honneur.
C'est ça, c'est ça.
Voilà. Ouais,
beaucoup dans le Nord, même ailleurs, hein, parce que Sandwich et compagnie, quoi. Et, à part en Océanie, en Polynésie, on a pris beaucoup le nom des indigènes.
Oui.
Il n'y a pas beaucoup de noms qui... Mais dans l'Océanie, plus quand même, hein, de noms d'anglais, même de français, quand même. À cette époque, et sauf si on faisait partie de la noblesse, bien entendu, l'accès au corps des officiers de marine devait se faire par la petite porte. Pas la grande porte, c'était les grands.
D'accord.
Pas la petite porte, les petits. Et c'est à l'âge de 13 ans que Vancouver va entrer à la Royal Navy. Hein ?
Mm-hmm.
La Marine Royal, évidemment. Mais c'est un garçon décidé et plein de ressources au caractère fortement trempé. Évidemment, c'est un noble, hein, il est habitué à donner des coups de bâton sur les autres pour aller recevoir lui. Hein. Et à seulement 15 ans, le voilà qui embarque sur le HMS Resolution, avec le grade de midshipman, qui équivaut à élève officier. Hein, les midshipmen. HMS, c'est His Majesty Ship, un navire de sa
majesté.
Tous les navires de guerre sont propriétés de sa
Majesté.
Majesté. Ce navire est sous le commandement du fameux capitaine John Cook.
Alors, James Cook.
James Cook, tout à fait, James Cook, exactement. On va faire une émission sur Cook, hein, parce que c'est une figure, Cook. Hein. Il a fini mangé par les gens à Hawaï, hein, ils l'ont cuisiné, bon, mais c'est de sa faute. Et là, nous sommes lors du second voyage que fait Cook, parce qu'il en a fait plusieurs, lui. Hein. Et c'était ce second voyage entre 1772 et 1775. Les voyages d'alors duraient entre 3, 4 et même 5 ans. Hein. Mmh. Ça faisait long, quand même. Hein. Mmh. À la recherche de la fameuse Terra Australis. À l'époque, on cherchait un continent qui s'est révélé être l'Australie, en fait, mais qui est beaucoup plus grand. Et on disait que c'était pour faire équilibre à la Terre, parce que tous les continents étaient sur le haut. C'était une connerie, d'ailleurs, parce que c'était idiot. Ici, il faut faire un petit aparté. On pensait alors qu'il devait exister donc, un continent dans l'hémisphère sud, celui que je viens de dire, pour faire équilibre à tous ceux d'hémisphère, donc, équilibre de la planète. On appelait ce continent Terra Australis, la Terre australe. Et on connaissait mais à peine les abords de l'Australie, mais on imaginait encore que c'était beaucoup plus vaste. D'ailleurs, on va écouter quelques vagues de l'Australie, là. Voyons.
Ah, oui. Il y a des mouettes en Australie ?
Il doit y en avoir, oui, il y en a partout. Hein. C'est pas en Australie, ça. Non, non. Non, c'est la Costa Brava en plein été, ça.
Hein. Ah, ça la mer est calme, là.
Ah ouais, non. Là, tu nous as foutu quoi, là ? Hein ?
C'est des petites
C'est pas des vaguelettes. Bon, enfin, on continue. Hein.
Ah, oui.
Bon, c'était bien, Melvin, c'était bien. C'était bien. Vancouver va ensuite embarquer pour le troisième voyage de Cook sur, cette fois, le HMS Discovery. La découverte, hein. En 1776 à 1780. Là, ça a duré 4 ans, quand même. Ce navire était le sister ship du Resolution. Alors, sister ship, ça veut dire un navire qui est totalement semblable, copie conforme à un autre.
Voilà, copier-coller, quoi, comme on dit maintenant.
Oui, copier-coller, coup de pied au cul. Non, c'était donc, comment dire, son sosie, quoi.
Oui.
Son jumeau, voilà. Je cherche, voilà. C'est cette expédition qui va être la première exploration et la reconnaissance des îles Hawaï par les Européens. Et c'est aussi là que le capitaine Cook va être tué par les Hawaïens. Bêtement, hein, on l'expliquera dans une autre émission, mais bêtement. Et eux, quand ils avaient un cadavre sous la main, ils le cuisinaient. Hein, ils le cuisinaient, voilà. Ils le découpaient et le mangeaient. C'était leur tradition, c'est pas pire qu'ailleurs, hein. Le retour vers l'Angleterre, c'est en 1779. On a dit 80, mais ça devait être à cheval sur les deux années. Mm-hmm. Vancouver n'a que 22 ans. Est nommé...
Hein ? Jeune.
Ah oui, non, mais tous étaient jeunes. Hein. Mm-hmm. À bord, des gens de 50 balais, tu n'en avais pas. Hein. C'est que des jeunes. Hein. Ça durait pas longtemps. Et puis c'était très dur. Il y avait beaucoup le scorbut. Il fallait passer à travers tout ça. Il est nommé lieutenant à 22 ans, hein, quand même. Puis second sur un grand vaisseau, ce qui est alors équivalent au grade de lieutenant de vaisseau dans la marine française. Pour son âge, c'était quand même un beau parcours. Enfin, il faut dire que c'était un gars de qualité, très intelligent, etc., avec des qualités humaines. On lui confie alors le commandement du sloop HMS Martin, qui est affecté à la surveillance des côtes. Parce que même s'ils avançaient, on leur donnait un tout petit bateau au départ, et après, ça grimpait.
Alors, en 1780, l'Espagne envoie une expédition dans le nord-est du Pacifique. Et c'est à ce moment-là, en 1789, que va se développer ce qu'on appelle la controverse de Nootka.
Nootka.
Alors, l'Angleterre... Nootka.
Non, il y est.
Voilà. L'Angleterre, qui, comme on le sait, ne lâche rien, pour ce qui concerne sa domination sur mer... et ses prises de possession de tout territoire outre-mer. Donc l'Angleterre est prête à déclarer la guerre à l'Espagne pour la prise de possession de la baie de Nootka sur l'île de Vancouver.
C'est ça.
Et plus encore sur le droit de coloniser sur toute la partie nord-ouest du Canada. D'ailleurs, l'Angleterre arme une escadre pour cette expédition quand même. Hein.
Carrément.
Ouais. Avec son collègue Henry Roberts, Vancouver rejoint cette escadre qui est sous les ordres du Commodore Whidbey. Il embarque sur le HMS Courageux.
D'accord. Ouais, tout un programme, hein.
Oui.
Alors, il faut quand même un peu parler de cette controverse de Nootka.
Allez, tu vas nous en dire plus.
Alors, en réalité, les premiers occidentaux à naviguer sur ces côtes, ça a été les Russes. Hein, ils sont pas loin. Ils sont de l'autre côté du détroit de Bering, Kamchatka, le bout de la Sibérie, etc. Et en 1741, donc c'était quand même 30 ans avant, hein, sous le commandement du fameux Vitus Bering, qui a laissé son nom au détroit tout au nord du Pacifique, détroit qui sépare le continent asiatique du continent américain. On pense d'ailleurs qu'il y a 100, 150 000 ans, les premiers Indiens d'Amérique du Nord sont passés par là.
Ah bon ?
Et oui, parce que le détroit de Bering était entièrement gelé et était fermé. Donc, il y a des théories, maintenant avec l'ADN notamment, qui donnent à penser que les Sibériens ont transhumé par là. Ils sont passés par là. D'ailleurs, quand on voit les trucs, quand on voit les tentes des Sibériens, quand on voit les chamans, quand on voit comment ils étaient habillés avec les plumes et tout, et que tu vois les Indiens d'Amérique du Nord, c'est les mêmes. En 150 000 ans, ça n'a pas changé. Enfin, bref. Vitus Bering, donc, qui a laissé son nom au détroit tout au nord du Pacifique, détroit qui sépare donc le continent asiatique du continent américain. Alors, cette croisière de Bering était sans prise de possession et seulement c'était une reconnaissance des côtes.
D'accord.
Hein, il notait les côtes, il notait un peu, il faisait un peu d'hydrographie. Et puis voilà, ça s'arrêtait là. Ce n'était pas des impérialistes. En 1774, ce sont les Espagnols qui vont croiser sur ces côtes, donc à peine 70 ans plus tard, quoi. Mais eux non plus, ils ne débarquent pas et ils se contentent de faire du troc avec les Indiens qui vivent là, évidemment, sans frontières, puisque les Indiens n'avaient pas de frontières, ils ne connaissaient pas les frontières. Le capitaine Juan José Pérez Hernández.
Si, señor.
Tu as compris ça? Et Juan José Pérez Hernández. Il a compris. Mouille son navire, Santiago. Santiago, connaissez usted Santiago? Santiago de Compostela. Bueno. Dans la baie de Nootka, qu'il nomme Surgido de San Lorenzo. Surgido, hein, la sortie. Il faut bien se représenter ce qu'est cette côte. Elle est extrêmement découpée. Ce n'est pas des plages comme le Languedoc-Roussillon. Hein. On y trouve des centaines de fjords, des baies, des chenaux, dans le détroit de Juan de Fuca, au sud de l'île de Vancouver, qui, du côté de la côte, ouvre sur le détroit de Géorgie. Hein? Comme on le dit en expression marine, l'endroit est très mal pavé.
Ah bon?
Et oui, quand c'est mal pavé, il ne faut pas trop s'approcher, parce que tu peux t'attraper un pavé. Avec des milliers de hauts fonds, des roches qui sont affleurantes, des îlots, des bras de mer qui finissent en cul-de-sac. Oh. Alors, avec les navires de l'époque, et évidemment sans moteur, tu l'auras compris, il est très risqué de s'aventurer dans ce dédale de chenaux. On peut très bien se trouver coincé. Et comme tu n'as pas de moteur...
Eh bien, tu es coincé pour de bon.
Comment on fait? Tu sais comment il faisait?
Non.
Ben, il mettait les chaloupes à l'eau. Les marins dedans avec des avirons, et...
C'était les chaloupes qui...
Ils tiraient le bateau.
Qui tiraient le bateau.
Ah oui, tu mettais 3-4 chaloupes, ça tire le bateau. Hein. Bon, c'était pas... Le bateau, c'était pas les bateaux qu'il y a maintenant, hein, qui font 15 étages.
Oui, c'était pas des porte-conteneurs.
C'était pas des porte-conteneurs. Voilà. Alors, à l'époque, évidemment, son moteur est très risqué de s'aventurer dans ces endroits de merde. Dans ces dédales de chenaux, on peut très bien se trouver. Alors, par contre, la baie de Nootka est une jolie baie qui est bien ouverte sur la haute mer. Elle est sur la, donc, elle est très saine pour le mouillage. Elle est sur la côte ouest de l'île de Vancouver, donc toujours ouest, donc toujours du côté du Pacifique. Et elle offre un mouillage qui est en plus bien abrité et sûr. Et sûr. Hein? Voilà.
Ah!
Alors là, déjà, vous êtes sur Radio Albigès,
avec Jean-Marie.
Et l'incontournable Arnaud, évidemment, et Melvin à la
voilà.
Technique.
Oui. Dans l'émission
Dessine-moi.
Un bateau ou dessine-moi la mer.
La mer aussi, ça se dessine bien aussi. Mer, c'est plus facile à dessiner la mer que le bateau. Hein.
Voilà, sur 95.4.
Et 104.2, bien entendu, c'est là que ça se passe. Et on vous parle du navigateur
Vancouver.
Anglais Vancouver. Et déjà, il n'y a plus de vagues. C'est la grève. C'est la grève des vagues.
Bon, je les remets.
Tu peux pas nous mettre une bonne tempête de temps en temps,
non.
Alors, on continue. Une convention Angleterre-Espagne intervient alors, et on est en 1790. Et Vancouver est nommé au commandement du Discovery, avec mission de prendre possession de la baie de Nootka et de cartographier les côtes alentour. Et cette cartographie, c'est ce qu'on appelle une mission hydrographique. Parce que la différence avec la cartographie prend tout le continent. Tandis que l'hydrographie ne prend que les côtes avec ce qu'il y a en mer. S'il y a des rochers, s'il y a des dangers, etc. Hein, voilà.
D'accord.
Ça, c'est l'hydrographie. Hein, voilà.
Merci. Alors, pour tes explications complémentaires.
Bah, c'est la bonne chose.
À partir de là, Vancouver va passer environ 10 ans en commandement sur différents navires de guerre avec mission de cartographier ses côtes entre 1790 et 1794 notamment. Hein.
Oui.
Alors à cette époque, eh bien, dans le domaine des navigateurs, on recherche à contourner le continent américain par le nord. C'est ce qu'on appelle alors la recherche du passage du nord-ouest.
Du nord-ouest.
L'intérêt de passer par le nord du continent américain, eh bien, c'est d'éviter d'avoir à contourner ce continent par le sud. Hein.
Oui, c'était très long.
Voilà. C'est-à-dire par le Cap Horn, ce qui est très long, comme tu viens de le dire, et qui constitue un passage difficile compte tenu des courants et du régime des vents qui soufflent là-bas.
Hein. Oui.
Alors, tout navigateur qui croise dans ce secteur est inévitablement attiré par le fait de pouvoir trouver ce passage.
Oui.
Malgré la dangerosité de cette région, le froid violent, les icebergs, le labyrinthe quasi inextricable constitué de roches, de baies, de bras de mer, par centaines, hein,
oui.
Et parfois même d'immenses blocs qui se détachent du pôle Nord et qui dépassent parfois une taille de plusieurs kilomètres.
Oui, oui, c'est énorme, ouais. Énorme.
Alors, en avril 1792, Vancouver va rencontrer le commerçant américain de Boston, Robert Gray, qui navigue sur son navire, le Columbia, et qui est lui aussi à la recherche de ce passage.
Oui.
Alors, Gray fait le commerce des fourrures de loutre de mer, qui alors est en plein boom, en pleine expansion, mm-hmm. et rapporte de très gros bénéfices.
Oui, oui.
Il déclare à Vancouver qu'il a découvert l'embouchure d'un grand fleuve qu'il a nommé Columbia du nom de son navire.
Mm-hmm.
Malgré les indications que lui donne Gray, Vancouver décide de ne pas pousser l'exploration sur ce fleuve. En réalité, il n'a pas réellement grande confiance dans les affirmations de ce monsieur Gray.
C'est ça, oui.
Il se méfie quand même.
Mmh, oui.
Il se méfie.
Vancouver va passer l'été à cartographier les côtes.
Oui.
Tu es d'accord. Du fait des conditions de partage issues du règlement donc, qui a fini par être trouvé, de la controverse de Nootka, vont faire pareil de leur côté, les Espagnols.
Hein. Oui.
Et d'ailleurs, Vancouver va respecter les dominations données par les Espagnols, comme par exemple pour l'île Galiano, sauf pour la passe de Juan de Fuca, qu'il va baptiser de son nom à lui.
Aha.
Bah, charité bien ordonnée, hein, voilà.
Hein. C'est ce qu'on dit.
C'est ce qu'on dit, oui, c'est la vérité. Cette passe avait été nommée Juan de Fuca par Charles William Barclay, un des commerçants négociants qui se procurait les peaux, donc auprès des Amérindiens Nootka.
Mm-hmm.
Alors, Fuca était d'origine grecque, ce fameux Fuca. Hein. Alors, tu sais qu'à l'époque, les marins s'échangeaient entre les nations. Hein. Par exemple, Christophe Colomb, qui était génois d'origine, etc. Voilà, s'échangeait beaucoup. D'ailleurs, sur les bateaux de Christophe, on en parlera peut-être si on passe de Christophe Colomb, je crois qu'on en a parlé. Sur l'équipage de Christophe Colomb, il y avait des Allemands, des Basques, des Français.
Ah bon?
Ouais. Le premier Français qui a fait le tour du monde sur un bateau, sur un voilier. Premier Français.
Tu vas nous le dire?
Tu sais sur quel bateau?
Non.
Sur le Victoria.
Ah bon?
Et le Victoria, c'était quoi?
Ben,
le Victoria, c'est le seul bateau de Magellan qui est arrivé à bon port.
Ah bon?
Le Magellan, il est parti en tout avec avec 250 ou 260 marins.
Mm-hmm.
Le Victoria est arrivé à Séville avec 18 marins.
Ouf,
tous les autres, ils sont restés en route. Et sur ce bateau, il y avait un charpentier qui s'appelait...
Dubois.
Non. Dubois d'arbre.
Non.
Qui s'appelait Normand.
Ah.
Eh bien, c'est le seul Français qui a fait le tour du monde en bateau.
Ah.
Ben oui, c'est le seul, le premier. Mm-hmm. Tous les autres qui étaient avec lui, c'était ou des Italiens, ou des Espagnols, ou des Génois. Quelques Espagnols, mais pas beaucoup.
Ah non.
18. Le massacre.
Bon, eh ben, voilà. Oui, en effet.
Donc tout ça pour dire que voilà, c'était assez risqué. Hein, mm-hmm. Voilà. Alors, Foucault, lui, eh ben, il était grec. Voilà. Hein. Et donc, dans les sur les bateaux de trucs, quand tu vois la liste, parce que la liste existe, hein, des marins qu'il y avait,
mm-hmm.
Il y a des Basques, il y a de tout, il y a des Hollandais, des Allemands, et même Colomb était génois, il était même pas espagnol. Hein, voilà. En 1592, il avait tenté de trouver la passe du nord-est, dite alors détroit d'Anian. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que quand on la prend du côté du Pacifique, c'est la passe du nord-est, on va vers l'est.
D'accord.
Quand on prend la passe du côté de l'Atlantique, on va de l'autre côté, puisqu'on contourne le continent américain par le nord. Hein. Voilà, là ça s'appelle la passe, là il y a le détroit de Bering,
ici, ouais.
Là c'est la Russie.
Oui. Fais-nous un dessin pour qu'on voit bien.
Oui.
Ouais, c'est oui. Ça. Je te ferai un dessin. Mais en noir et blanc, tu le veux?
Oui.
Tu le veux en noir et blanc ou en couleur?
Explique que les auditeurs comprennent comme il faut.
Tu me donnes là le bon crayon qu'il faut, hein, et la bonne feuille.
Voilà. Donc d'un côté, c'est le nord-est, et de l'autre côté, c'est le nord-ouest.
Voilà, et ça s'appelle la passe d'Anian.
Là, côté la passe nord-est.
Voilà. Il avait tenté de trouver la passe du nord-est, dit alors détroit d'Anian, car à cette époque, on imaginait qu'un bras de mer reliait cette côte à la baie du Saint-Laurent.
Mmh.
Mais la baie du Saint-Laurent est beaucoup plus basse, beaucoup plus basse. Entre Thon et la baie d'Hudson. La baie d'Hudson, c'est une mer intérieure qui doit faire quelque chose comme 200 km quand même, sur 200 km. Hein. C'est énorme. Hein. Mmh. Là-bas, tout est énorme. Voilà. Et Foucault naviguait alors avec les Espagnols. On veut des vagues de tempête là maintenant pour les Espagnols.
Tang, 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 vagues de tempête.
Oui, oui.
C'est la petite tempête.
Ouais.
Tempête pas beaucoup là, hein, tempête pas beaucoup.
Ça
hein.
Quand même.
Ah, c'est la petite tempête. On appelle ça une brise de fond de culotte. On appelle ça une brise de jeune fille aussi. Les marins,
oh,
les marins.
Jean-Marie.
Ah ben c'est les marins qui disent ça. Hein. Moi je suis marin, moi.
Ah.
Oui, non, mais c'est ça. Hein.
Ah oui.
Alors Vancouver poursuit sa navigation et reconnaît le pourtour de l'île de Vancouver, évidemment. Et là, il a fait le tour, là. Il parcourait les côtes. Donc, ils avaient avec eux toujours un cartographe, bien sûr, hein, un dessinateur, qui dessinait le profil des côtes avec les montagnes, tu vois. Ça permettrait comme ça, après, il n'y avait pas de photo à l'époque, hein, ça permettait de se repérer. On avait une suite d'images, et en voyant les images, les navigateurs se repéraient.
Mm-hmm.
Maintenant, on a les quoi, le GPS, le machin. Alors, à l'automne, il se décida à aller rencontrer le navigateur et militaire espagnol Juan Francisco de la Bodega y Cuadra.
Mm-hmm.
Il avait un nom qui était long, lui. Hein. Juan Francisco de la Bodega. Tu sais ce que c'est, la bodega, hein?
Si.
Oui, bueno. Y Cuadra. La Cuadra, c'est plutôt les écuries, hein. Ouais. On est en 1792. Vancouver va mouiller à Friendly Cove, dans une anse qui porte le nom de Notka Sound. Un sound, c'est toujours une baie, hein, voilà, sound. Ouverte sur le Pacifique, ou c'est plutôt un passage sound, je crois, plutôt, hein, qu'une baie. Ouverte sur le Pacifique, sur la côte ouest de l'île de Vancouver, et où les Espagnols maintiennent un détachement, donc un poste militaire, établi là depuis plusieurs années. Alors là, on est entre marins et les relations sont très amicales, puisque les marins se reconnaissent entre eux, hein, tant qu'ils ne sont pas emmerdés par la hiérarchie. à tel point même que Vancouver propose que cette île soit nommée Quadras. Donc, à Quadras, tu vois, ils mettent le S pour dire qu'il appartient à, mais ils prennent un mot espagnol. Tu vois ce que je veux dire? Ils mélangent l'espagnol et l'anglais, là. Hein. Quadras and Vancouver's Island. Hein. De son côté, Quadra a instruction de proposer que la frontière entre espagnol et anglais soit le détroit de Juan de Fuca. Ce qui obligerait les Espagnols à se retirer, évidemment, à Friendly Island. Friendly Island, ça veut dire l'île des compagnons, des amis. Hein. Mais en l'absence d'instructions plus précises, Vancouver décline cette proposition. Alors la question sera remise aux deux gouvernements qui seuls, évidemment, ont autorité de décision, puisque là, il s'agit de possession des pays.
Et oui. Voilà. Alors il faut quand même parler un peu des vrais occupants de ces terres, qui sont donc la tribu amérindienne des Nutchanyul, dont la déformation de prononciation a donné Nutka.
Nutka.
Leur grand chef se nommait Makina ou encore Makia ou Makwina. C'est lui qui a initié le commerce des peaux de loutre de mer avec les Européens.
D'accord.
Alors, que dire de plus? Eh bien, ces gens sont sans aucune importance devant la démarche colonisatrice et envahissante des Européens, bien sûr.
C'est évident.
Les seuls à s'y intéresser, honnêtement, sont sans doute les anthropologues et les ethnologues actuels.
C'est pas actuels. Faux. C'est pas faux.
Lorsqu'ils quittent les Espagnols, Vancouver va envoyer son lieutenant Brockton sur le HMS Chatham pour reconnaître le fleuve Columbia et en prendre possession au nom de la Grande-Bretagne.
Oui.
Par contre, il ignore alors que des explorations plus poussées sur ce fleuve ont été faites par Gray après leur précédente rencontre, le commerçant américain dont on a parlé tout à l'heure.
Tout à l'heure sur Columbia.
Voilà. Alors Vancouver retourne en Angleterre en 1795, où il va prendre sa retraite et se consacrer à la rédaction du récit de son voyage, mais il meurt en 1798, à seulement 40 ans.
Et il lui a rempli sa carrière. Hein.
Voilà, en laissant son récit, hélas, inachevé.
Inachevé.
Il faut ici révéler qu'il avait eu un différend avec un jeune noblio du nom de Thomas Pitt,
oui.
Et de fait, membre d'une puissante famille politique.
Eh oui.
Ce jeune prétentieux avait accompagné Vancouver dans son voyage, et ce différend est sans doute la raison de la réception plutôt tiède de Vancouver à son retour dans la mère patrie.
Eh oui, parce que dans la mère patrie, c'était plein de failloteurs comme il y en a maintenant, et évidemment, les vraies qualités des gens, ils n'en avaient rien à foutre. Ce qui comptait, c'était la puissance des familles. Quoi, hein.
N'était pas reconnu, forcément.
Tu as dit le mot que je cherchais. On va quand même dire un mot sur la controverse de Nutka. On se souvient, si vous l'avez écouté sur cette antenne, de l'histoire du traité de Tordesillas.
Oui, on en a parlé, oui.
Voilà. Où les Portugais, donc, par ce traité, les deux nations qui à l'époque avaient pris pied sur le continent américain, l'Espagne et le Portugal, s'étaient partagés, entre guillemets, le reste du monde non connu. Tranquille, quoi, hein. Ouais, hein. Voilà.
Ouais.
De ce fait, les Espagnols se déclaraient propriétaires du reste, le fameux reste, et notamment de toute la partie du continent au nord de l'Équateur. Tranquille, hein, voilà. Ouais. Évidemment, les Anglais ne l'entendaient pas comme ça, et ils voulaient bien trouver un accord, mais certainement pas laisser les Espagnols seuls propriétaires de tous ces territoires. Là, maintenant, je reparle, on ne parle plus de Tordesillas, bien sûr, on parle des territoires canadiens.
Oui.
Comme on peut le constater par la suite, c'est bien les Anglais qui ont mis la main sur la totalité de ces régions. Trop plus un Espagnol à l'horizon.
Non.
Voilà. Alors, peu importe que ce ne soit pas eux qui aient été les premiers Européens à reconnaître ces terres, quant aux vrais occupants, les premiers à y être installés depuis des milliers d'années, leur peu de force et leur inorganisation les rendaient sans la moindre importance dans cette affaire, bien entendu. Les petits, dégagés, on vous a assez vu. Les Nutka servaient d'intermédiaires, surtout, pour fournir les peaux de loutre de mer aux négociants qui eux ont retiré de considérables bénéfices, un point, c'est tout. C'est bien ce qui se passe maintenant. Il faut retirer de considérables bénéfices du travail des autres. On peut constater ici la relativité des choses. D'abord les Anglais, tout autant que les Espagnols, se fichent pas mal des droits du sol des indigènes installés là depuis des milliers d'années. Et par la suite, c'est Vancouver qui, à son tour, retourne en Angleterre et après un travail de recherche, de tractation, de danger et de risque, après des années d'un travail considérable accompli pour le bénéfice de son pays, se trouve mis en quelque sorte au placard. Ben, c'est un juste retour des choses d'ici-bas, finalement, si on réfléchit bien. Simplement parce qu'il n'a pas voulu amener pavillon, devant un petit prétentieux fils de famille, puissant, il est vrai, puisque les Pitts ont laissé une grande trace dans l'histoire de l'Angleterre, il ne faut pas l'oublier ça, comme quoi, charité bien ordonnée, tout est une affaire de rapport de force, et non de vrai mérite, comme tu disais tout à l'heure, reconnu. Mais ça, chacun de vous, vous le savez déjà, je suppose, sinon, révisez vos partiels, hein. Ok ? Révisez vos partiels.
Voilà ! Sans commentaire rajouté à ce que tu viens de dire.
No comment.
Nous concluons cette émission. Merci pour votre écoute. Et puis, à une prochaine fois. Bye bye.
Eh bien, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Hein ? C'est ce qu'on fait à chaque fois,
d'ailleurs. Mieux, Jean-Marie.
C'est ce qu'on fait à chaque fois.
Oui.
Adios à toi.
Merci encore. Bye bye.
Ça nous a pris 3 mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop beau. Pour les vacances, nous avions un bateau.